Bienvenue à bord de ce TGV numéro 2257 à destination de Genève. Ce train sera sans arrêt jusqu'à la gare de Genève-Cornavin. Moi-même, le chef de bord et l'ensemble de l'équipe vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie, y compris à nos passagers de seconde classe, et nous excusons par avance de la médiocrité des sandwichs qui vous seront proposés à des prix pourtant exorbitifs.
Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Ne vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez n'est autre que celui d'un train. Oui, je sais, ça vous rappelle des souvenirs, à bord duquel j'ai sauté pour aller rendre visite à mon invité, qui est suisse et qui était partant pour venir me rejoindre, mais craignait ensuite de ne plus pouvoir rejoindre son domicile fiscal. Ainsi, puisqu'il n'est pas venu à moi, je suis allé à lui, comme disait Lagardère, le bien nommé, en tout cas Lagarde, qui a su trouver les arguments pour débaucher Patrick Cohen du service public. Ceci était une plaisanterie à tiroir. Me voilà donc en route avec ma fine équipe, direction Montreux, pour y rencontrer non pas Dick, mais Dicker, l'auteur de Thriller, qui plafonne en tête des ventes avec ses enquêtes diaboliquement ficelées. Un peu comme Dick plafonna il y a, quelques années, avec son méga tube, Est-ce que tu le sais ? C'est sans doute là le seul point commun entre les deux hommes d'ailleurs. Dicker peut rêver à Dick pour ce qui est de la longévité, Dick peut rêver à Dicker et de son succès international. Dick et Dicker pourraient même imaginer un duo dont on pressent ici l'impact nucléaire qu'il aurait sur le roman policier et le rock, mais pour l'instant...
Genève, Cornavin, terminus, tout le monde descend. Une antenne ambulatoire est mise à disposition des passagers ayant imprudemment consommé des sandwichs vendus en voiture 14 à des prix, je le rappelle, exorbitants.
Le train arrive à destination et démarre.
France Inter. Antoine de Caunes.
Bonjour Joël Dicker et bienvenue dans ce wagon. Un duo Dick et Dicker, ça pourrait vous intéresser.
Ça me plaît beaucoup. Ah. On l'enregistre dans le train.
Et vous êtes prêt à faire ça ?
Je suis prêt, vraiment.
Attention, parce que lui, il arrive tout de suite. Je préviens tout de suite.
Vous avez Jack Black ?
Pourquoi Jack Black ?
Black et Dicker.
Black et Dicker.
C'est tout pour moi, Paris, merci.
Ça sera la seule vanne de l'émission, je vous le dis tout de suite. À mes côtés, celle qui signe les blagues au quotidien et le featuring aussi de Pop Pop Pop, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour.
Joël Dicker, avant de commencer, je laisse au plus grand fan de Dick Rivers le soin de lancer cette émission.
Ouais, salut les tapettes ! C'est Didier ! Didier l'embrouille ! Allez, pop, pop, pop ! C'est parti !
Bon, merci Didier, on peut aussi rester poli. Hein. Bref, pop, 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 c'est parti. Joël Dicker, ici il existe une question qui précède toutes les autres. Une question encore plus stressante que d'écouter 1h30 de yodel dans les Alpes suisses à l'Émanique. Oui, bon, ça va. Et cette question, c'est... Pour vous, Joël Dicker, c'est quoi la pop culture?
Mais la pop culture, pour moi, c'est le partage. C'est-à-dire, c'est quelque chose, que ce soit un film, que ce soit de la musique, que ce soit une série télé ou un livre, c'est quelque chose qui va permettre à des gens qui, au fond, n'auraient pas de lien commun, qui n'auraient pas de sens de parler ensemble, qui n'auraient pas de lien ni par leur âge, ni par leur profession, ni par leur milieu, de se retrouver, de partager quelque chose qui les passionne, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, mais dans lesquels ils se retrouvent. Et je crois que la pop culture est ce qui permet, non pas de créer des barrières dans ce que souvent on découvre dans la musique ou dans la littérature, qui est « ça c'est pour toi, c'est pas pour toi, ah mais tu lis ça, donc tu n'es pas comme ci ou pas comme ça », qui est vraiment quelque chose qui casse toutes ces barrières, qui fédère. Et qui fédère autour de quelque chose où on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On se demande est-ce qu'on aime, est-ce que ça nous prend aux tripes ou est-ce que ça ne nous prend pas aux tripes, mais on le partage. Et je crois que c'est ça qui est le plus important.
Et c'est une culture qui décloisonne donc.
C'est une culture qui décloisonne ou qui justement n'encloisonne pas. Je ne sais pas où il faudrait le mettre.
Bon, quelque part entre les deux.
Entre les deux, parce que je ne crois pas que la culture ne devrait jamais cloisonner. C'est surtout tout ça. C'est ce qui m'énerve beaucoup.
Très bien. Bon, eh bien, merci infiniment pour cette première définition. On va démarrer cette émission, mais d'abord, on va écouter de la bonne musique, de la bonne musique de la pop culture, avec Father John Misty et son nouveau morceau, Mr. Tillman.
Yeah.
gentlemen, good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb.
Mr. Tillman, c'est
une... Vous êtes sûr de ce solo de fin sur le morceau?
Le solo de flûte.
J'accompagne, c'est tout. Mr. Tillman, c'est une nouveauté signée Father John Misty qu'on adore à Pop 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 Pop. Car oui, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Joël Dicker. Joël Dicker, si nous devions écrire un livre sur vous, que mettrions-nous en quatrième de couverture? Bah, réponse avec votre pop portrait. Votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous aurions pu recevoir le fondateur de la Gazette des Animaux, revue sur la nature créée par le plus jeune rédacteur en chef de Suisse. Ou alors ce jeune écrivain d'à peine 20 ans, auteur de la nouvelle Le Tigre, une vocation précoce suivie d'une trajectoire dingue, faite de best-sellers et même de prix, genre le Goncourt des lycéens ou le Grand Prix du roman de l'Académie française. Ce serait bien, hein? Et à la place, on a qui aujourd'hui? Ah bah Sylvie, c'est le même, c'est exactement le même, Joël Dicker. Les livres, il est tombé dedans quand il était petit, entre une mère libraire et un père prof de français. C'est la moindre des choses que d'aimer, inventer, raconter, même des histoires dans lesquelles il y a toujours des gens plus ou moins décédés, hein, faut bien le dire. Joël Dicker, la star de l'enquête Helvète, enfin star Helvète du roman, dont les intrigues sont plutôt, elles, situées du côté des États-Unis de l'Amérique. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le livre des Baltimore et la disparition de Stéphanie Meller, trilogie Yankee, dans laquelle on retrouve des crimes et au moins un des protagonistes qui est écrit. Hasard? Je ne crois pas, non. Antoine, nous voilà donc pendant une heure transformés en limier pour résoudre cette enquête. Voilà, ou moins répondre à cette interrogation. Alors je propose que vous soyez le good cop et moi le bad cop, si ça vous va.
Mm-hmm. Moi ça me va, et vous Joël Dicker, ça vous va?
Ça me va très bien.
Vous criez très fort.
Alors démarrons comme ça. Joël Dicker, on sait que ce que vous écrivez, mais moins ce que vous lisez, encore moins ce que vous écoutez, et nous ne savons pas du tout ce que vous regardez. Alors passons à la pop liste.
Avec plaisir.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Et pour le film, vous avez porté votre choix sur Et au milieu coule une rivière, un film réalisé par Robert Redford, sorti en 1992.
My father was a Presbyterian minister and a fly fisherman. My younger brother Paul and I probably received as many hours of instruction in fly fishing as we did in all other spiritual matters.
What do you want to be when you grow up?
Minister, I guess.
What are you gonna be?
First, a fly fisherman.
There's no such thing.
I am alone in the half-light of the canyon. All existence seems to fade to a being with my soul and memories. And a river runs through it.
And the river runs through it. Alors attention, Joël Dicker, je commence le pitch et vous continuez. Après tout, c'est vous qui savez raconter des histoires. Vous êtes prêts?
Allez-y.
Au début du 20e siècle...
Ecle. Merci. Ces deux frères, c'est l'histoire. Alors, c'est un livre. Hein. Là, je vous parle du film, mais à la base, c'est un livre qui est une histoire vraie et dans lequel deux frères racontent leur... un des frères parle de son enfance dans le Montana avec un père qui est pasteur et son frère qui l'admirait. Ça se finit pas très bien, je vous raconte pas tout. Et ils passent leur temps à pêcher. Pêche à la mouche et ils grandissent ensemble, la rivalité grandit, mais il y a cet amour, cette rivalité, cette envie de s'accompagner l'un l'autre qui grandit au fur et à mesure qu'ils pêchent et ils grandissent et ils pêchent et ils grandissent et ils pêchent. Mm-hmm. Et il se passe autour de ça la vie de deux jeunes hommes dans le Montana de l'époque. Et c'est un livre extraordinaire. Et c'est un des livres qui m'a donné envie d'écrire.
Et là, vous parlez du livre.
Là, je parle du livre et du film. Mais pourquoi? Parce que c'est un des livres qui m'a donné envie d'écrire. Et c'est une adaptation absolument incroyable parce que vous avez... Tout est dans le film et tout est dans le livre. On ne peut pas se tromper. Je pense que c'est une des meilleures adaptations qui existent parce que tout ce que vous ressentez dans le livre, vous le ressentez dans le film et inversement.
Ça n'arrive pas à tous les coups.
Ça n'arrive pas souvent parce que c'est un livre au fond où il ne se passe rien. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est la force du roman, et c'est un film, on va parler du film, c'est un film au fond où il ne se passe rien. Vous imaginez deux types dans le Montana, alors c'est très beau, ils pêchent à la mouche, et ils parlent, et il y a leur père qui est pasteur, c'est pas passionnant, et pourtant, c'est extraordinaire de relations humaines, de sentiments, donc c'est dans tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est en ça que c'est un très grand film, et que c'est resté, d'ailleurs je l'ai vu encore l'autre soir, c'est resté un très grand film, parce que en fait, toute la question est qu'est-ce qui se passe au-delà de l'image. Et c'est très fort.
Enfin, il ne se passe rien, il y a quand même cette rivière qui coule au milieu.
Et
tous ces poissons qui défilent. Bon, pour la série Flashback 1990, parce que vous faites un choix très lynchien avec Twin Peaks, mais vous précisez, attention, la saison 1. Pourquoi? Parce que la saison 2 est un peu chiante?
Non, alors la saison 2, je ne l'ai pas vue.
Ah ben voilà, non, ben voilà, vous y répondez. Non, parce que j'ai entendu des choses très, très négatives sur la saison 2.
C'est vrai?
Non.
Sur la saison 3?
Non. La saison 3,
c'est la saison 3,
oui,
vous avez raison. C'est les deux premières saisons. Ouais, vous êtes formidable.
Oh, ben elle est formidable, c'est
pour extraordinaire.
Ça alors pourquoi Twin Peaks?
Elle est là, ça la gêne.
En fait, j'ai beaucoup hésité. J'ai choisi Twin Peaks parce que dans l'idée du partage d'une série qui, aujourd'hui encore, est restée très actuelle par sa photographie, par son histoire, elle a pas vieilli. Et j'ai trouvé ça très fort. J'avais hésité entre cette série-là...
Une histoire de meurtre, hein, donc.
Une histoire de meurtre, mais qui est... Oui, c'est une histoire de meurtre, mais qui est une histoire qui plaira à tout le monde. Ça qui me parle, c'est que c'est une série. Vous pouvez la regarder, que vous soyez cinéphile ou pas, que vous soyez amateur ou pas de Lynch, que vous soyez amateur de série B ou de ce qu'on fait maintenant de très grandes séries. Vous trouverez dans cette série... qui date pourtant, quelque chose de très actuel et qui plaira à tout le monde. Et il y a ce partage qui me plaît beaucoup.
Et il ne se passe pas grand-chose, enfin, sauf qu'il y a cette rivière quand même qui coule aussi au milieu.
Et il pêche à la mouche.
Ah, je mélange tout, pardon. Non. On peut avoir une petite ambiance de Twin Peaks, s'il vous plaît?
Where am I? And how can I leave?
Where's my axe? I'm hungry!
What happened?
I don't know. Sheriff Truman just brought her in from Glastonbury Grove.
Twin Peaks, ça fait toujours bien de répondre Twin Peaks, c'est très classieux comme série, mais j'ai ouï dire qu'il y avait quand même une deuxième option possible, Joël Dicker en série culte,
alors,
qui est un peu loin de cet univers.
Qui est loin de cet univers. Alors,
je peux quand même rester une seconde sur Twin Peaks avant d'enchaîner, c'est que là encore, il est question de disparition.
Oui, mais vous savez, c'est marrant parce qu'on m'a parlé de Twin Peaks après Kébert, quand Kébert est sorti. J'avais eu d'ailleurs une interview houleuse sur France Culture à l'époque, un matin où un type vient dans l'émission et dit « Mais votre bouquin, c'est Twin Peaks, c'est Laura Palmer, c'est Nola Kedergan, etc. » Et je le regarde en me demandant « Est-ce que je dois passer pour un idiot ou est-ce que je mens ?» C'est-à-dire que je n'ai jamais vu Twin Peaks, je ne sais pas de quoi il parle. Et je l'ai regardé après coup. Et alors moi, je n'ai vu aucune similarité.
Vous me promettez ça?
Pardon?
Vous me le promettez?
Oui, je vous promets, évidemment. Non, je l'ai vu après coup, d'ailleurs, j'en parle d'entendre.
Vous n'êtes pas en train de refaire l'histoire?
Non, je vous le promets.
Je me méfie avec vous.
Oh, je me méfie. Moi, je pensais que c'était
Charlie. Mais Charline. Oui, c'est moi, Batcop, normalement.
Ah, pardon.
Non, et en fait, j'ai trouvé aucune similitude entre mon livre et ça. à part mm-hmm. qu'il y a Laura Palmer qui est tuée, mais au fond, une jeune fille qui disparaît ou qui meurt,
ça,
c'est assez banal, mm-hmm. entre guillemets, hein, mais mm-hmm. c'est rien de très extraordinaire comme idée pour une intrigue.
Alors, Bad Cop, c'était quoi l'alternative ?
Oui, et alors l'autre série, c'est...
Alors, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas mentionné finalement. L'autre série que je voulais initialement, dont je voulais parler initialement, c'est Sauvé par le Gong. Screech, Zach et Slater.
Pour les garçons, oui.
Pour les garçons. Il me manque une, il y a Lisa Tortue,
Kelly Kapowski,
Kelly Babowski,
et Spano, la troisième. Jessie Spano.
Ah, vous êtes très forte.
Et des décors en carton-pâte.
Mais c'est un peu le problème de cette série, c'est que c'est une série qui est pleine de souvenirs pour moi ou pour tous les gens de cette génération-là, mm-hmm. mais elle a mal vieilli. Et si vous regardez un épisode maintenant, il n'y a plus ce côté jouissif et ce plaisir qu'on pouvait avoir enfant. Donc c'est une série qui reste vraiment très ancrée années 90 et qui aujourd'hui, on aurait de la peine à en parler, à la partager parce qu'on se dit, oulala, c'était ça vraiment.
Je garde Twin Peaks, surtout que dans Sauvé par le Gong, il n'y a pas de rivière qui coule au milieu.
Non, il y a une cafette.
Oui, et non, mais ça n'a rien à voir. Pour le livre, je le dis qu'à vous choisissez, attention. Belle du Seigneur, écrit par Albert Cohen, publié en 68, un chef-d'œuvre absolu d'après Joseph Kessel. Le roman est le récit de la passion de Solal pour Ariane Doble, une passion flamboyante qui peu à peu se désagrège. Petit cadeau pour vous, la youtubeuse nommée Serial Bookeuse qui place le livre dans son top 3. Écoutez-la.
Salut les Serial Readers, je vous retrouve aujourd'hui pour un top 10. Et en troisième position, on retrouve Belle du Seigneur de Albert Cohen, qui a été très 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 chaudement recommandé par Éléonore de la chaîne Et les Livrovores. C'est un roman qui a l'air très piquant, très ironique, avec un petit peu d'humour noir sur notre société, qui tourne en humour, et enfin je sais pas, voilà, j'adore ce genre de roman, elle m'a dit que j'allais adorer, et donc troisième position oblige.
Elle est bien, Serial Bookeuse.
Alors, Serial Bookeuse, c'est très bien. C'est un tout petit peu cruel pour Albert Cohen, qui je pense, aussi aujourd'hui, on lui disait qu'il était le top 3 sur une chaîne de YouTube. Ça pique un peu. Hein. Mais c'est un roman extraordinaire.
Vous l'avez lu à quel moment de votre vie, ce livre ?
Je l'ai lu je l'ai lu en 2006. Donc, j'avais 21 ans. Mm-hmm. Et c'est un roman. J'ai été complètement happé par cette histoire, dans laquelle, au fond, il se passe de nouveau. Hein, il ne se passe pas grand-chose.
Il y a une rivière.
Il y a une rivière, mmh. il y a un pêcheur. Mmh. Et puis surtout, c'est un couple et une femme qui a un amant, si on devait le résumer très brièvement. Et alors, c'est très drôle. Mais en fait, c'est ce qu'un vrai roman devrait être. C'est un vrai plaisir de partage entre un auteur et un lecteur. Mmh. Et je crois que si ce roman est aussi extraordinaire, c'est parce que Albert Cohen lui-même, j'imagine, quand il l'écrivait, a dû avoir un plaisir, a dû tellement rire, a dû voir ses personnages. Et je crois que c'est ce qui se passe quand on le lit. On le lit et on rit. Et le livre, en version poche, je crois, fait 1200 pages. Ouais. Et on se dit, oh, plus que 800 pages, oh, plus que 700 pages, il faut que je fasse attention. Et pour moi, ça a été la première fois où j'ai été comme ça, tellement pris par un roman. Et où vraiment, là, on a l'idée de comment un roman est beaucoup plus fort que le cinéma ou que la série télé.
C'est ce qui vous a donné l'idée, d'ailleurs, d'écrire des gros livres. Parce que je crois que le dernier, à l'origine, faisait 1200 pages, c'est ça ?
Oui, alors, ça m'a donné envie d'arriver un jour à écrire un livre qui se lise avec autant de plaisir et une rapidité aussi, ou une avidité, je devrais dire, qui est celle que j'avais quand j'ai lu ce livre-là. Mais c'est très difficile de l'imaginer. Et quand j'ai fini Kébert, je me suis dit, mais personne ne va lire ce livre. Et personne ne va lire ce roman de 650 pages.
Juste 5 millions de personnes.
mais je me disais, c'est trop long, ça va trop loin, ça va pas. Et j'étais très surpris de la réaction de mon éditeur, à commencer par lui, qui m'a dit, j'ai lu ça en deux nuits, c'est formidable. Je dis, quoi, vous avez lu ça en deux nuits ? Je ne m'y attendais pas du tout.
Question que Charline se posait tout à l'heure, mais qu'elle n'osera jamais vous poser elle-même. Est-ce que la lecture de Belle du Seigneur a influé sur votre vie sentimentale ?
Probablement enlever une femme sur mon cheval comme ça, envoyer son mari faire des rendez-vous diplomatiques au Caire ou je sais pas où, ça me paraît bien. Je pense que oui parce que il y a cette forme de cynisme hein, quand il raconte, donc il y a quand même toute une leçon de la séduction de l'homme sur la femme. Alors, si on le lit aujourd'hui, ça peut être parfois un peu dans l'ambiance MeToo, parfois assez compliqué à lire, mais il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Et puis, il faut le prendre au deuxième degré ou au sixième degré. C'est très amusant. Et c'est l'histoire, au fond, de « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Hein, c'est quand, si on veut plaire à quelqu'un, il faut surtout tout faire pour lui dire tu ne m'intéresses pas, et dégage
c'est,
de là.
C'est mieux comme le monde. Et, va, je ne te hais point.
Et il le raconte très bien.
Absolument.
Donc c'est un manuel de drague extraordinaire, voilà, pour faire lire ceux qui ne l'ont pas encore lu. Comment séduire un homme ou une femme, assurance de réussite 100%, lisez Belle du Seigneur. En 1200 pages.
Alors, comme Pop-Pop est une terre du contraste, on va passer de Belle du Seigneur à Super Mario. Et oui, c'est aussi ça la pop culture, parce que vous choisissez ce moustachu interlope à salopette comme jeu vidéo. Elle vous rappelle quoi cette petite musique là ?
Elle me rappelle le champignon qui grossit.
Oui, arrêtez, vous m'excitez. Et pourquoi Super
c'est...
Mario ?
Mais en fait, c'est le seul jeu vidéo auquel j'ai jamais joué de ma vie. Avec Tetris, qui est un jeu vidéo aussi. J'aurais pu mettre Tetris.
Considéré comme un jeu vidéo, oui.
Et en fait, donc vous m'avez posé une question à laquelle je n'avais qu'une réponse. Mmh. Et j'ai des souvenirs de moi sur Game Boy. J'ai toujours été nul aux jeux vidéo. Ça ne m'intéresse
ça
pas
nous
du
fait
tout.
Un point commun, je veux dire.
Et voilà. Ouais. Et donc j'ai le souvenir du Game Boy, de Super Mario. Mmh. Et comme il fallait que je réponde, je vous ai répondu Super Mario.
Très bien, je m'en contente. Je garde mon moustachu. Et puis la musique pour finir. Vous avez choisi ça. Ça, ce sont les Guns N' Roses avec le morceau que vous avez choisi, Paradise City, un morceau de 1987.
Alors, il n'y a pas de rivière, mais l'herbe est verte et les filles sont jolies, apparemment.
Ouais. Oui, puis il se passe quelque chose, oui. Alors, je vous imagine chez vous, vous aviez 2 ans en 87 à jouer de l'air guitare devant votre armoire, c'est,
absolument,
c'est ça.
Absolument, ouais. C'est ça. Alors, les Guns N' Roses, c'est déjà c'est toute ma jeunesse, avec mon frère et mes cousins, qui étaient un peu plus âgés que moi. Donc, c'est vrai que vers l'âge de 4-5 ans, j'étais déjà baigné dedans et je me mettais un t-shirt noir sur la tête pour faire les cheveux de Slash.
Et vous pouvez l'enlever. Hein.
Et c'est un groupe qui, aujourd'hui encore, réunit, je les ai vus en concert à Madrid au mois de juin, avec 50 000 autres personnes qui hurlaient, qui chantaient. Et c'était extraordinaire parce que c'était un mélange de joie, de souvenirs de l'enfance et en même temps de modernité, parce que on les voit vieux, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, donc ils cachent rien, hein. ils ont trop bu, ils sont trop drogués, ils sont bouffis.
Oh, comme vous y allez.
Mais c'est vrai, mais ils ont cette énergie extraordinaire où il y a cette communion encore. Hein. On a vu des groupes.
Ah oui, on a
eux,
vu.
Eux ont vraiment sont restés assez incroyables.
Je me tourne vers ma spécialiste de musique. Qui a remplacé Axl Rose dans Guns N' Roses ?
Mais c'est lui là qui est sur scène.
Ah, c'est lui
Axl
qui est revenu maintenant.
Oui, là maintenant c'est l'original. C'était incroyable. Ah, Slash, Matt, Axl Rose, toute l'équipe.
Parce qu'il avait bien quitté le groupe à une époque.
Mais ils étaient tous très fâchés.
Non, ils sont fâchés, mais c'est Slash qui a quitté le groupe.
Ah,
et
d'accord.
Là, c'est la tournée de la réunification. Si jamais ça vous intéresse.
Comme à Koh-Lanta.
Exactement.
Ah, okay.
Les rouges et les jaunes.
Me revoilà à niveau. Bon, alors je résume. Robert Redford, La rivière qui coule, donc Twin Peaks, Belle du Seigneur, Mario et Guns N' Roses. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça, Joël Dicker.
Salut les Serial Readers.
Where's my axe?
What do you want to be when you grow up? Minister, I guess.
I'm hungry!
Mario.
Where am I?
Troisième position oblige.
And how can I leave?
And a river runs through it.
Ouais, Joël Dicker, c'est un mixeur de pop culture ou votre destructeur de documents là, qu'on vient d'entendre?
Je suis pas sûr. C'est un peu entre les deux.
Elle est pas mal, hein?
Elle est pas mal. Bon. Ah ouais, c'est
bah,
très
écoutez,
bon.
C'est, voilà, c'est ce qui vous représente.
C'est moi.
Ça ne vous résume pas, mais c'est un aperçu de Joël Dicker.
C'est un bon résumé.
2018, de ce qu'il y a dans la tête de Joël Dicker aujourd'hui. Alors, Joël Dicker, avant de continuer à parler de culture, de pop et de pop culture, on va faire un petit pop break pour écouter votre compatriote. Stéphane Escher est l'une des plus belles chansons jamais écrites. C'est normal. C'est du Djian que nous recevions ici lundi dernier. Tu ne me dois rien.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
Je ne t'entends pas très bien, il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où viens ce besoin si pressant d'écouter soudain les poules aura-t-elle des dents? Ma voix t'a-t-elle manqué après bien tant d'ans? Ce serait une belle journée et il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses à présent. On enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu assures mon humeur, encore des effets. Je ne dois rien, j'ai eu un mal de chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en secret, chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Pas dérangé, je vis seul pour l'instant, mais je ne suis pas pressé, tu sais, je prends mon temps. Tout est si compliqué, tout me paraît si différent. On ne refait pas sa vie, on continue seulement. On dort moins bien la nuit, on écoute patiemment. De la maison, les bruits du dehors, l'effondrement. Je vais bien, cela dit, appelle-moi plus souvent. Si tu as envie, si tu as un moment. Mais il n'y a rien d'écrit et rien qui oblige. Je ne dois rien, j'ai eu un mal de chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en secret, chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien, rien.
Tu ne me dois rien, un morceau de Stéphane Echer sur France Inter. Cet extrait de l'album Engelberg. Joël Dicker, vous venez nous présenter votre quatrième roman, La disparition de Stéphanie Mailer, paru aux éditions de Fallois il y a quelques semaines et qui est déjà en tête des ventes. Alors je vous plonge dans l'ambiance. 30 juillet 1994. Ghislain, c'est le réalisateur de l'émission. Quand on donne une date, on l'entend avec un effet pourri de machine à écrire, tu vois? C'est pour faire un effet, quoi. Tu veux bien me le rajouter ?
Oui, pas de problème, on y va.
Bon, ok, je recommence. 30 juillet 1994. Orphéa, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante témoin du meurtre. 20 ans plus tard, une journaliste, la Stéphanie Mailer du titre, retrouve un policier en charge de l'enquête à l'époque pour lui dire qu'il s'est trompé. Et puis, Stéphanie disparaît. Stéphanie est une bonne journaliste, hein. Elle écrit, comme bon nombre de vos personnages, pour ses parfois le hobby. Est-ce que vous rêvez, Joël Dicker, d'un monde dans lequel l'écriture aurait une place primordiale ?
Oui, ah, c'est une bonne remarque. Ben, je rêverais d'un monde dans lequel l'écriture et la lecture et le roman et la littérature auraient la première place. Je crois que tout se passerait mieux. Et je crois que si les gens lisaient plus, si les gens s'ouvraient plus, si on arrivait à faire lire plus les jeunes, ça paraît un peu idiot de dire ça comme ça, mais j'y crois tellement. Je crois tellement à la force de la littérature, à la force du roman, à la force des essais aussi. Mais je crois que c'est pour ça que dans mes romans, en ce moment, il y a autant de gens qui écrivent. Et il y a des libraires, il y a des lecteurs, il y a des romanciers. Je pense que c'est pour deux raisons. La première, c'est que j'aimerais pouvoir mettre le romancier, la littérature et l'écriture à la place numéro un. Plus que le foot, plus que le reste.
Mais pourquoi y croyez-vous tant que ça à la puissance de l'écriture ?
Mais d'abord parce que je crois que je le vois chez mes lecteurs. Et moi, ce qui me touche le plus, et on a parlé des prix avant que j'ai reçu, alors je suis très touché quand je vais signer des livres et que j'ai des professeurs d'une université, des grands lecteurs qui vont me dire « Moi, je lis 30 livres par mois et votre livre est très bien, je vous félicite, ça me touche beaucoup. » Et je suis vraiment. Mais rien ne vaut la personne qui vient me dire « Ben, moi, je lisais pas, je savais pas que j'aimais lire et j'ai lu votre roman et en fait, j'ai adoré et maintenant, je lis. Je lis plein de livres. » Et ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive de plus en plus. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. C'est pas par rapport à moi et ou à mon livre, c'est par rapport au fait que cette personne se remet à lire. Et lire, qu'est-ce que c'est ? Lire, c'est vous-même, lecteur, qui crée un monde imaginaire. Et ça, la force de l'esprit qu'on a en soi, c'est une force qui est d'une immensité dont on ne peut pas prendre la mesure jusqu'à ce qu'on l'expérimente vraiment. Et qu'on soit dans le bus, et qu'on soit dans le train, et qu'on soit à l'hôpital peut-être, et on ouvre un livre, et on n'est plus à l'hôpital, on n'est plus dans le bus, on n'est plus dans le train, on est dans un roman. Et si ça existe, contrairement à la télévision, on a une projection et on se nourrit de ça, dans le roman, on est le créateur. Le lecteur est le créateur de ce qui se passe.
Question technique, Joël Dicker, vu la complexité de vos intrigues et le nombre de personnages, quand vous écrivez vos romans, est-ce que vous commencez par la fin ?
Non, je connais rien du livre en fait. Je connais rien du livre
ça.
Et j'ai pas de plan.
C'est pas une légende.
Non, mais c'est pas une prouesse. Je le dis pas comme une prouesse. C'est pour expliquer. Je pense au contraire que ça explique mieux comment je travaille. Et je crois que, et à ceux qui me disent, et j'entends bien qu'on puisse me dire, oui, mais votre roman, il y a trop de personnages, il y a trop de rebondissements, il y a trop de. C'est ça. J'ai dit, oui, je veux bien le croire parce que c'est évident que si j'avais un plan, que je me disais, voilà, c'est le début, milieu et fin ici, je mettrais jamais autant de rebondissements, jamais autant de personnages parce que ça me semblerait trop. Et donc, de le faire comme ça vient, c'est vraiment pour moi le plaisir de lecteur. Parce que je suis un lecteur avant tout, j'écris parce que j'aime lire et parce que j'aime quand je lis un livre, j'aime découvrir ce qui se passe et que je crois que j'aurais pas la patience de passer 2 ans et demi à écrire un roman dont je connaîtrais déjà qui est le meurtrier, ce qui se passe et qui fait quoi. C'est important pour moi de ne pas savoir.
La disparition de Stephanie Meyer est composée comme un roman à tiroir avec différents narrateurs racontant la même histoire, comme La Dame en Blanc, matrice du roman policier, le livre de Woody Collins, ou Rashomon pour le cinéma. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mode de narration ?
Mais parce que de plus en plus, je me pose la question de la vérité. Et j'ai fait du droit à la base, j'ai un master en droit, J'ai toujours été frappé par la question de « on doit présenter sa vérité, on doit convaincre un jury ou un juge d'une vérité qui est la sienne ou celle de son client. Mais du coup, où est la vérité ?» Et quand on témoigne d'une injustice ou qu'on témoigne d'une situation ou qu'on se sent victime, où est la justice ? Celui qui vole une pomme parce qu'il a faim, et je lisais encore dans le journal un homme en Italie qui a été condamné pour avoir volé une aubergine. Il a volé une aubergine dans un champ. Il a volé une aubergine dans un champ, un légume, pour nourrir son fils. Et la justice l'a condamné. Et où est la vérité ? Est-ce que le propriétaire du champ est vraiment lésé pour la perte de cette aubergine dont la valeur est estimée à 20 centimes, je crois ? Oui, il est lésé. Mais est-ce qu'on doit condamner quelqu'un qui a faim pour avoir volé une aubergine ? Je ne sais pas. Moi, je crois que non. Mais c'est la question de la vérité, justement. Où est votre vérité ? La mienne est quelque part, la vôtre est quelque part, la vôtre, Charline, est ailleurs encore. Donc c'est ça qui m'intéresse.
Où est votre vérité, Charline ?
Nulle part. Aucune. Dans vos romans, une multitude de personnages, donc autant de narrations, et dans vos romans aussi, de nombreux allers-retours dans le temps. Est-ce que raconter une histoire de manière linéaire serait pour vous quelque chose d'effrayant ?
Non, mais je crois que ce ne serait pas possible, puisque je n'ai pas de plan. Et je finirai par faire des plans, et je finirai peut-être par le faire. Et il faudra que j'évolue un peu à un moment donné. Hein. Mais je crois que là, vraiment, pour moi, de ne pas avoir de plan, ça m'oblige à aller dans le passé. Parce que si vous voulez comprendre quelqu'un, si vous voulez savoir où vous allez, vous devez savoir d'où vous venez, en tant que personnage, en tant qu'histoire. Et donc, ce retour dans le passé, il est important, parce que le personnage, quand il arrive, quand il se présente dans mon livre et qu'il toque à la porte du bureau dans lequel j'écris, il me dit, voilà, je suis un personnage. Et je me pose la question, moi, en tant qu'auteur, de me dire, mais d'où est-ce qu'il vient, ce type-là ? Pour essayer de comprendre où est-ce qu'il va aller. Et je crois que ces allers-retours dans le temps expriment bien mon manque de préparation avant de commencer le roman, parce qu'en fait, j'ai aucune idée.
Moi, je voudrais revenir sur ce thème de la disparition qu'on évoquait il y a quelques instants. Dans l'affaire Harry Kéber, l'intrigue s'ouvrait sur la disparition de la jeune Nola Kellerghan. Dans votre roman, c'est au tour de cette journaliste Stephanie Meyer de disparaître. La disparition, c'est un motif qui vous obsède, mais je voudrais savoir pourquoi. Et sans faire de psychologie de grande surface, est-ce qu'il y a quelque chose qui est disparu de votre vie et que vous recherchez sans cesse ? Ne me répondez pas la vérité.
Probablement que oui. Non, probablement. Non, je crois que dans le roman, ben, c'est une question à tiroir. Comme... non, parce que je crois qu'on commence par la disparition, parce que la disparition, elle est l'inconnu total. Et que quand vous savez, et je pense que ça me laisse de la place aussi à moi, n'ayant pas de point, de dire, elle a disparu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'on l'a enlevée? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est vivante? Et la disparition est, je crois, le fait divers, par essence, qui intrigue le plus. Et notamment après coup, c'est-à-dire quand on se dit, bon là, cette personne a disparu depuis 20 ans, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, un peu moins en Europe, c'est que constamment dans les supermarchés, vous avez des affiches d'enfants qui ont disparu il y a 20 ans, et dont il y a l'image il y a 20 ans, et l'image telle qu'il serait maintenant. Et je trouve hyper violent parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, ils ne sont pas morts. Et ils sont où s'ils ne sont pas morts? Et donc, je pense que la disparition pour cet effet, cet artifice-là, pour le romancier, a un côté pratique parce qu'elle ouvre beaucoup de portes. Je crois que pour moi-même, qu'est-ce que je recherche? Mais je recherche qui je suis. Qui je suis, ce que je fous là. Pas là dans le studio avec vous, je suis très heureux d'être là. Mais le sens de la vie, qu'est-ce qu'on doit en faire dans une vie qui est très réglementée par des lois, par des codes moraux, auxquels on confronte ses envies, par les aubergines.
Vous avez une théorie sur l'affaire du pont de Ligonnès à propos de disparition?
Non, mais vous voyez, c'est fascinant. Mmh. Alors, c'est une histoire terrifiante. C'est une histoire qui, dans un roman, ne tiendrait pas la route. Et c'est en ça que la réalité, souvent, est beaucoup plus forte que la fiction. Parce que si vous écriviez ça, où il écrit que, soi-disant, il est parti et il envoie le SMS au prof ou une lettre à ses profs en disant « mes enfants ne viendront plus », n'importe qui se dirait « mais qu'est-ce que cette histoire ?» Ça ne tient pas la route. Le prof n'est pas venu sonner ou il n'est pas venu. Et donc, toute cette histoire, au fond, est abracadabrantesque. Pourtant, c'est la réalité. Et on se demande où il est. Et quand récemment, il y a eu cette descente dans un monastère, on pensait l'avoir vu, je trouve que c'est, par rapport à l'histoire, hein, je trouve que c'est fascinant. Mmh. Il était là. En fait, il était là. Et il y a quelque chose de romanesque dans cette réalité, au-delà du crime et de l'atrocité, mais il y a quelque chose de très romanesque parce qu'on veut savoir. Mais
le crime est romanesque, bien sûr.
Alors, la disparition comme obsession ou pas, hein, l'obsession, en tout cas, l'obsession d'un auteur, c'est aussi un bon moyen de rendre les lecteurs accros, un syndrome que ressentent assez souvent ceux qui ouvrent vos livres. Et ce, depuis le premier, à commencer par quelqu'un qui a aussi beaucoup compté pour vous, Bernard Defalois, votre éditeur, qui expliquait au micro de la matinale de France Culture l'effet que lui avait fait la vérité sur l'affaire Harry Kébert.
Pour la première fois, j'ai eu le sentiment de me trouver devant le livre qui vraiment possédait un pouvoir magique sur le lecteur. Je l'ai fait lire à un grand nombre de mes amis, en leur demandant de me refroidir. Et quand j'ai vu qu'ils éprouvaient la même expérience que moi, que tous me disaient, il y a longtemps que je ne lis plus de romans, j'ai retrouvé ce que j'avais dans ma jeunesse. Ou bien, je croyais passer une semaine en le regardant de temps en temps, et je m'aperçois au bout de 2 jours que je l'ai terminé. Je me suis dit qu'il y avait là quelque chose de très intéressant.
On appelle ça un page-turner, ou en français correct, ces livres impossibles à reposer quand on les a entamés. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous?
On appelle ça un grand roman. Pas mon roman, et je ne le qualifie pas de grand roman par rapport... Ce que je veux dire, c'est que c'est ça le roman. Quand je dis grand roman, ce n'est pas une valeur du livre, c'est, je parle des grands romans, de ce qu'ont été les grands romanciers français, Balzac et Dumas. Et Zola, qui sont des histoires qui vous emportent. C'est ça le roman. C'est pas les rikiki de 120 pages où il se passe rien, de machin, Paul dans sa cuisine, qui se fait une tartine. Et ça
oh, lui rappelle, vous ça... avez lu Christine Angot, vous.
Ou écouter un album personne. De Benabar.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça le roman. Il faut arrêter de déconner quand même. Le roman, c'est tout ce que... Mais c'est fou qu'on se prive de ça. Et c'est fou dans ce que dit Bernard. Ça m'émeut beaucoup, beaucoup de l'entendre. Mais il parle du sentiment de la jeunesse, de ces gens qui ne lisent plus de romans aujourd'hui, comme si c'était interdit d'avoir du plaisir. Mais alors, si on n'a plus le droit d'avoir le plaisir du roman, mais allons-nous jeter directement dans la Seine? C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et on est là en train d'utiliser des termes, dit « Ah, page turner, utilisons. Oh, mon Dieu, c'est un livre dont on a envie de tourner les pages, c'est affreux, on a envie de savoir ce qui se passe. Oh non, c'est trop dur, c'est tellement bon d'avoir un livre dans lequel on a envie de jeter la poubelle. » Non, mais c'est pas une critique. Mais...
Joël Dicker, calmez-vous, nous allons continuer à parler de la disparition.
Non mais lisez, mon Dieu.
De Stéphanie Mailer. Et à propos de plaisir d'abord, est-ce que vous savez faire ça?
Je crois, attendez, j'essaye.
Pas mal. Merci. Il est un petit peu suisse. Hein, pop. De toute façon, c'est juste pour lancer les pop prévisions. Parce que le printemps est en bougon, on a carrément envie de chaleur. Alors comme certains d'entre vous sont déjà en vacances, autant préparer les prescriptions pop de l'été.
L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans l'été,
On est d'accord que je ne peux rien annoncer de sérieux après
mais
ça.
Si, hein.
Ok, on y va. Dans les salles cet été, une Madeleine pour les grands, une source d'émerveillement pour les tout-petits. Disney vous propose de voir un ours sympa en vrai. Pas Paddington, donc pas la voix de Guillaume Gallienne, mais Jean-Christophe et Winnie. Jean-Christophe n'est plus un enfant. Il ne va plus dans la forêt des rêves bleus. Il a les traits de Ewan McGregor. Il est père de famille. Il a promis à son enfant de l'emmener en vacances. Mais la vie active en a décidé autrement. Il doit rester travailler et il n'est pas content.
Que faire, que faire, que faire?
Que faire en effet?
Oh, Winnie?
Jean-Christophe?
Ça y est, j'ai craqué.
Non, tu n'es pas craqué. Un peu ridé, peut-être.
Sympa cette source. Jean-Christophe et Winnie de Mark Forster, qui est le réalisateur qui avait fait Neverland, mais aussi World War Z, autant dire le grand écart, ce sera dans les salles le 1er août.
On poursuit notre tournée des festivals avec les Francopholies de La Rochelle du 11 au 15 juillet. À l'affiche cette année, Big Flo et Oli, Chaton, Cheval Rex, Eddie de Préto, tous passés par ses studios, Aurel San, Roméo Elvis, qu'on attend de pied ferme ici, et une artiste en version symphonique.
Je suis Jane Birkin et vous êtes sur Pop Pop Pop.
Birkin Gainsbourg, le symphonique, c'est à l'affiche des Franco.
Et cet été, on se met au frais pour regarder l'une des 7 séries originales Netflix indiennes. Oui, ça change, une mystérieuse série dont vous entendez l'ambiance musicale qui ne vous apprendra absolument rien sur l'intrigue. Et c'est bien pour ça que je suis là. Titre du show, Secret Games, adapté du best-seller du même nom signé Vikram Chandra, un récit épique mettant en scène les milieux corrompus d'une économie indienne en pleine expansion. Des politiciens, des flics, des espions, des cultes religieux, des riches, des pauvres, le tout à bomber. La série débarque le 6 juillet, on dit yay. Yeah.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Yeah. Merci, Charline. Joël Dicker, toujours pas de yodel dans la programmation musicale de Pop, 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 mais du Patti Smith. Est-ce que ça vous va?
Ah oui, très bien.
Très bien.
Ah
alors
oui.
On écoute Because the Night, hein, à cause de la nuit.
Ah bah quand même.
Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Miss Because the Night, c'est extrait de Easter, c'est de saison Rising, et je crois que c'est un morceau d'un certain Bruce. Ça me dit quelque chose, il faudra que je fasse des recherches. Bien, vous écoutez.
Pop, pas, pop, ça, me dit, pop. Ça n'évoque absolument rien.
Non, je regarderai. Vous écoutez Pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes toujours en compagnie de Joël Dicker. Joël Dicker, Joël Dicker, on vous accueille aujourd'hui pour la disparition de Stéphanie Meller aux éditions de Fallois. On a commencé à en parler tout à l'heure, mais nous avons encore quelques questions à vous poser. Je laisse la parole à ma bad cop.
L'intrigue de la disparition se situe à Orphea, une ville fictive des Hamptons. Et pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber, l'histoire se déroulait à Aurora, une ville du New Hampshire, un état que j'arrive jamais à prononcer, et surtout une ville qui n'existe pas. Pourquoi est-ce que vous situez vos romans dans des endroits imaginaires?
pour la liberté, je pense. Pour la même raison que je situe mes romans aux États-Unis et pas à Genève, où je vis et où j'aimerais bien. D'ailleurs, j'avais essayé pour ce roman de le placer en Suisse. Et le problème, c'est que j'ai l'impression, et c'est la faiblesse peut-être encore de moi, jeune écrivain, j'ai l'impression que j'arrive pas à raconter Genève avec des sentiments, mais plus des faits tels que c'est vraiment. Et j'arrive pas à inventer à Genève un quartier qui n'existe pas, ou à inventer au croisement de deux rues un restaurant alors que je sais qu'il y a autre chose à la place. Mmh. Et je crois que les États-Unis, que je connais très bien, me donne cette crédibilité dans le récit, puisque je connais très bien, en fait, je me pose pas trop de questions et je sais que c'est juste. Et en même temps, d'inventer une ville imaginaire dans cette liberté me donne encore plus de liberté parce que je peux y mettre ce que je veux.
Mais on sent quand même chez vous une certaine fascination à la fois littéraire et fantasmatique pour les États-Unis. En tous les cas, pour une certaine Amérique, une Amérique un peu WASP, hein, l'Amérique du Nord-Est, la Nouvelle-Angleterre, le Maine, ces États-là. Comment est-ce que vous voyez l'Amérique d'aujourd'hui?
Oh, avec tristesse. Mais je crois que vous avez raison dans ce que vous dites. Moi, j'ai grandi, j'ai passé tous mes étés dans le Maine avec des cousins de ma famille qui étaient des immigrés qui ont fui l'Europe juste avant ou juste après la guerre et qui étaient des gens qui parlaient 8 ou 9 langues, qui étaient des gens très cultivés. On parlait français, anglais, allemand, russe, qui avaient des amis qui parlaient tous 8 ou 9 langues, qui connaissaient tout sur tout, qui étaient des très hauts fonctionnaires, des diplomates et puis qui l'étaient, peignaient, des artistes aussi, enfin des gens très complets comme ça. Et pendant longtemps, j'ai cru que les Américains étaient des gens qui parlaient 8 ou 9 langues, qui connaissaient tout sur tout. Mais j'ai grandi comme ça, parce que j'ai grandi dans ce milieu-là jusqu'à mes 20 ans. Mm-hmm. C'est qu'avec Harry Quebert où j'ai vraiment été confronté à ce que sont vraiment aujourd'hui les États-Unis.
Elle est où la suissitude dans vos romans?
Dans la langue, chère madame, puisque j'écris en français, qui est une de nos 4 langues nationales. Et puis ce sont des romans au fond très européens, hein, dans ce que ça raconte, dans la manière de l'utiliser, mais le français est très important.
On sent aussi chez vous une veine feuilletoniste, hein. Vous publiez des gros romans foisonnants. Ça me fait penser dans la mécanique à la manière dont travaillaient des Dumas, des Eugène Sud. Est-ce que ce sont des auteurs que vous avez consommés?
Oui, le Comte de Monte Cristo, qui est le roman extraordinaire, avec peut-être, sans faire de point commun, mais peut-être qu'il y a l'idée dans le feuilleton de ne pas savoir ce qui va se passer. D'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une intrigue à une autre. Il y a cette possibilité, cette liberté que je revendique un peu aussi en me disant je ne sais pas ce qui se passera même dans le prochain roman ou même dans la suite de l'histoire. Et je commence mon livre sans rien savoir.
Des romans feuilletonnants construits avec toutes les mécaniques de séries télé, cliffhanger, twist et autres barbarismes. Ça nous permet de vous poser la question suivante. On va bientôt pouvoir voir sur le petit écran The Truth About the Harry Quebert Case, starring Patrick Dempsey et directed by Jean-Jacques Hano. Diffusé en France sur TF1 en 2018. Quel effet ça vous fait d'être adapté pour la télé? Et puis, est-ce que c'est une série que vous avez déjà binge-watchée et validée?
Ça a été une expérience extraordinaire. Elle va sortir probablement à l'automne prochain sur TF1, réalisée par Jean-Jacques Hano, qui a au fond, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est même plus une série. Moi, je considère, alors c'est diffusé en 10 épisodes, donc c'est une série dans ce sens-là, mais je considère, parce que vous utilisez le terme de binge-watcher, c'est-à-dire de consommer goulûment
une série. Comme Page Turner.
Non, parce que l'idée du binge-watching, je ne sais pas s'il y a un mot français, c'est l'idée, par exemple, de passer un week-end et de regarder une saison entière, donc 16 épisodes ou 24 ou 10, peu importe, mais c'est-à-dire de voir un film, si vous voulez, de voir un film qui va durer 8 heures, alors que la série avant, c'était quand même se dire, chaque semaine, je vais passer une heure, et deux semaines à semaine.
Attendre.
Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on veut voir tout en un seul coup. Et je crois que c'est en ça que c'était presque un film, parce que Jean-Jacques Hano, en tout cas, lui, l'a tourné comme un film, avec les moyens techniques d'un film, et non pas comme une série par bloc. Donc, on n'a pas tourné épisode 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a tourné par lieu. Chaque lieu a été d'abord filmé, ensuite c'est remonté maintenant, il est en train de le monter maintenant, donc j'ai pas vu les épisodes montés parce qu'il est en train de le faire, mais ce que j'ai vu sur le tournage m'a beaucoup, beaucoup plu.
Joël Dicker, 32 ans, des millions d'exemplaires vendus, une série en cours réalisée par Jean-Jacques Hano. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous et on s'en réjouit ici. Bon, en tous les cas, pour moi, c'est l'heure de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais, je crois que je vais aller chercher un petit morceau du King. Allez. Bah, depuis quand il y a une porte de chalet?
Et là, je lui dis toujours, elle me répond.
Et depuis quand il y a un restaurant suisse ici?
Eh hey, les gars, vous voulez du chocolat?
Il y a du monde là. Non mais j'hallucine, mais qu'est-ce qu'ils font ici ceux-là? Mais j'y crois pas. Il y a Henri, mon cochon, Jean-Michel, mon cheval, et Luc, mon éléphant, qui se la coule douce. Eh, ça va, les gars? Qu'est-ce que vous mangez, là? Une raclette? Mais t'aimes ça, toi, Jean-Marie? Attends, c'est rare, les chevaux qui mangent de la raclette. D'accord. Et toi, Henri, t'aimes ça, toi? Quoi, t'en raffoles? Attends, tu connaissais pas et t'en es déjà à ta 8e assiette? Mais tu sais ce que t'as mangé avec la raclette, là, les petits bouts roses, tu sais ce que c'est? Bah, c'est du cochon. Mais non, c'est pas une vanne. T'as mangé ton frère ou un de tes potes. Oh non, Henri, pas sur la table. Pas en public, pas dans un restaurant, s'il te plaît. Non, mais il y en a partout. Bon, mettez un vinyle là-haut, c'est la cata ici. Ah, mais comment je vais nettoyer tout ça, moi?
France Inter, pop, 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 Antoine Decaune.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. River flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life.
Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, un morceau de 1961. Voilà, c'est ici que Pop 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 s'achève aujourd'hui. Merci Joël Dicker.
Merci beaucoup à vous.
La disparition de Stéphanie Mailer, votre quatrième roman, est disponible aux éditions de Fallois. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Kevin Pelot et Victoria Asper, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy et Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Léa Drucker qui vient nous présenter le film Place publique d'Agnès Jaoui. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos suisses sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.